Mais par actualité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mercredi 8 février 2017, Clotilde Saye en direct sur les ondes de Canal M dans le studio de Vues et Voix à Montréal. Avec comme titre aujourd'hui assez par actualité, Sclérose en plaques, un nouveau médicament pour ralentir les symptômes. Une clinique de proximité aura pignon sur rue à Montréal-Nord. Les écoles privées du Québec à l'abri de l'austérité. En Mauricie, les organismes communautaires réclament un meilleur financement. Et puis, une enfant handicapée oubliée dans un autobus scolaire pendant 6 heures. Et en Europe, plus précisément en France, garantir le droit de vote des personnes handicapées. Et deux entrevues, celle de Martin Dussault, intervenant psychosocial du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, et Chloé Serradori de l'Association des groupes d'intervention de défense des droits en santé mentale du Québec au sujet d'un dépôt de mémoire le 19 janvier dernier. Alors, sclérose en plaques, un nouveau médicament pour ralentir les symptômes. L'ocrelizumab, un médicament destiné aux personnes atteintes de sclérose en plaques, est plus efficace et présente moins d'effets secondaires que les traitements développés par le passé, explique Douglas Arnold, neurologue ayant participé à sa conception. Ce médicament est aussi le premier à alléger les symptômes de la forme progressive de cette maladie, relève-t-il dans un reportage de Jean-François Boutillette. Le médicament, qui rend la communauté scientifique très optimiste, vise un autre type de cellules que ses prédécesseurs, soit les lymphocytes B, qui sont, selon le neurologue Pierre Duquette, la clé de voûte, l'un des éléments centraux de la réponse inflammatoire responsable de la sclérose en plaques. Ce spécialiste, qui n'a pas participé au développement de l'ocrelizumab ni à ses tests cliniques, parle d'une percée qui est l'aboutissement de travaux entamés il y a une vingtaine d'années. Jérôme Desaize, co-auteur de l'étude parue dans le New England Journal of Medicine, s'enthousiasme des résultats de tests effectués sur des centaines de personnes sur une période de 2 ans. L'ocrelizumab diminuerait l'intensité des symptômes pour la forme poussée rémission et serait le premier traitement qui fonctionne dans le cas de la forme progressive. Son homologation est en cours aux États-Unis et en France et pourrait également être terminée au Canada dès cette année. Pierre Duquette prévient toutefois les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches. L'ocrelizumab ralentit la progression de la maladie, mais ne recule pas les horloges. Ceux qui ont reçu un diagnostic il y a longtemps et qui vivent depuis de nombreuses années avec cette maladie ne profiteront probablement pas énormément de ce développement. Malgré tout, le spécialiste estime qu'on s'approche de la découverte de l'élément initial qui déclenche la cascade qu'est la sclérose en plaques. Pour souligner et annoncer l'ouverture prochaine de la clinique de proximité à Montréal-Nord, les partenaires du projet ont tenu une clinique d'un jour. La population du quartier pouvait venir rencontrer une infirmière pour un test de glycémie, une prise de pression ou obtenir des conseils, une consultation ou un service de référence. C'était le 3 février dernier. La future clinique, qui sera située sur la rue Lapierre, devrait ouvrir officiellement ses portes ce printemps. La clinique de proximité est le résultat d'une volonté citoyenne et a été élaborée au départ par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIQ, et Parole d'exclus, exclus ES. Rapidement, la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal, la CHAPEM, qui fournit les locaux, et l'arrondissement de Montréal-Nord, qui a injecté 20 000 $ sont devenus des partenaires indispensables. Avec cette clinique de proximité, les citoyennes et les citoyens de Montréal-Nord pourront à terme compter sur des soins de santé de qualité offerts par différents professionnels de la santé, dont des médecins, des infirmières, des inhalothérapeutes et des intervenants sociaux. Le projet de clinique de proximité a été conçu en fonction de 4 principes fondateurs. Une clinique accueillante où les personnes se sentent écoutées et respectées. Une clinique accessible pour les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer, une clinique inclusive et ouverte à tous, en particulier aux personnes qui se sentent marginalisées, et une clinique portée par la communauté, puisque les citoyennes et les citoyens jouent un rôle important dans sa mise en œuvre et dans son fonctionnement démocratique, afin qu'elle soit parfaitement arrimée aux besoins de la population. Il est intervenant psychosocial au CIUS Centre Sud de l'île de Montréal et il a même fait les pages du Monde récemment avec ce projet que je trouve pas mal fantastique. Martin Dussault, bonjour. On va parler de basket. Vous avez compté quoi, 3 points, vous?
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Ça va bien, Martin. Alors, Martin Dussault, donc, les journées de la persévérance scolaire et le programme Bien dans mes baskets. De quoi s'agit-il?
Oui, bien, on a réussi à s'insérer dans les journées de la persévérance scolaire. Pour nous, la persévérance est un des éléments extrêmement importants. On est dans une école, on est des travailleurs sociaux du CIUS, mais qui travaillent à l'intérieur du milieu scolaire. Donc, c'est un objectif qui fait partie de notre réalité au quotidien. On travaille aussi avec des jeunes en difficulté.
D'accord.
Donc, la majorité ont des difficultés d'apprentissage. Donc, pour nous, les journées de la persévérance scolaire faisaient du sens sur tous les points.
Et alors, vous proposez une activité autour du basket, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Il faut nous en parler.
On est un programme d'intervention sociale par le basketball en milieu scolaire.
OK.
On part vraiment de l'intérêt qu'ont les jeunes pour ce ballon rond-là,
oui.
Pour susciter des liens avec eux, pour essayer de les amener dans une zone où l'école va devenir un milieu d'appartenance plutôt qu'un milieu où ils ont vécu les échecs à répétition. Donc, on se sert vraiment de ce centre d'intérêt-là pour les amener un petit peu plus loin, pour les pousser vers le développement de conditions de vie ou d'habitudes de vie, finalement, qui vont leur servir là, tout au long de leur parcours.
Et ce, dans le quartier Centre-Sud de Montréal?
Oui, on a l'école Jeanne-Mance est située sur le plateau Mont-Royal. La majorité des jeunes qui participent au programme proviennent du quartier Centre-Sud. Mais maintenant, avec la particularité qu'on a ici, on a des jeunes d'un peu partout à Montréal là, qui viennent fréquenter l'école pour le spécifique du programme Bien dans mes baskets.
Alors, il y a 3 volets hein, à ce programme. J'aimerais que vous nous en parliez un peu plus, s'il vous plaît.
Oui, bien, comme je vous disais, tout tourne alentour du ballon. Donc, on travaille bien sûr la partie sportive. On a
bien
des entraîneurs qui sont spécialisés dans leur domaine et qui vont amener finalement nos athlètes à se développer à des niveaux très élevés.
Oui. Mais sur le plan scolaire aussi?
Oui, c'est ça. Bien,
voilà.
On a la partie scolaire aussi qui est très importante. Nous, on se considère chanceux parce que le basketball au Québec se joue majoritairement en milieu scolaire. Donc, on profite de cette occasion-là dans le milieu pour arriver à créer ce lien-là entre l'intérêt des jeunes, leur intérêt aussi à se développer dans leur sport, mais les amener à comprendre qu'au Québec, ça se situe de façon parallèle. Donc, s'ils veulent continuer à évoluer dans leur sport à un haut niveau, ils vont devoir travailler sur leurs apprentissages scolaires. Donc, on les aide à prendre conscience et à devenir autonomes, finalement, dans ce parcours-là qui, à la base, pour eux, n'était pas un parcours facile ou un parcours tracé d'avance.
Okay.
Donc ça, c'est la partie scolaire. Et la troisième partie, qui est pour nous notre gros spécifique au CIUS Centre-Sud, c'est la partie sociale. Donc, c'est d'arriver dans cette période-là de l'adolescence où les adolescents sont dans un temps où on doit se définir, où on apprend un peu à se connaître, on apprend à voir qui on veut être, c'est d'arriver à créer un lien avec ces jeunes-là pour qu'on soit des personnes de référence, pour qu'on soit des modèles, pour que s'ils ont des questionnements, s'ils ont des difficultés, s'ils ont des choix importants à faire, ce qu'on sait qu'ils vont avoir à faire, ils puissent les faire de façon convenable. Et nous, on dit souvent qu'on a la chance de pouvoir travailler 5 ans avec ces jeunes-là, donc parfois même 6, parce qu'ils ont des grandes difficultés, mais on a 5 ans à travailler avec eux pour arriver à développer ces 3 volets-là.
Alors, question évidemment qui s'impose, ça marche? Ça fonctionne avec ces jeunes-là?
Ça fonctionne très bien. Je vous dirais pas que tout est parfait. C'est un parcours qui est souvent pas simple.
Non,
c'est des réalités individuelles. C'est des réalités aussi collectives qu'on essaie de travailler au fil des années. Mais le médium est extraordinaire. Donc, oui, d'emblée, je peux vous dire qu'on va chercher des liens vraiment importants avec ces jeunes-là. On est capable de susciter des changements très importants. Et depuis 5 ans, et avec fierté, je peux vous dire ça ce matin, 96% des jeunes qui finissent le programme Bien-Aimé Basket poursuivent leurs études, soit au cégep ou dans un programme particulier par la suite.
Oh, bravo, Martin. Mais
ben, merci
mais
beaucoup.
Non, vraiment, 96%, c'est fantastique, ça. Parce qu'au départ, il faut rappeler que ce sont des gens qui ne partaient pas avec les mêmes chances que d'autres. Hein, c'est bien ça.
Effectivement, ce sont des jeunes qui ont majoritairement des grandes difficultés.
Voilà.
Et au fil du parcours, ben on arrive à les amener à prendre conscience de ces besoins-là, puis faire en sorte aussi que le milieu peut s'adapter à ces jeunes-là,
Bien sûr.
pour après ça les amener à croire qu'eux aussi ils peuvent réussir, puis eux aussi ils peuvent aspirer à aller collégial, à aller universitaire, soit par leur sport ou par leurs études, ou les deux.
Martin Dussault, vous-même, vous êtes un modèle pour eux, hein? Vous avez fait l'objet d'un documentaire, non? Je me trompe?
Effectivement, un très beau documentaire
ouais.
qui a été tourné par Robert Cornelier. Robert est passé 5 ans de sa vie avec nous, finalement, pour soutirer une année du vécu de l'intérieur du programme Bien-Aimé Basket et des jeunes. D'ailleurs, on va avoir un événement la semaine prochaine dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui aura lieu le 16 février à 19h au Théâtre Outremont. C'est gratuit, mais les gens doivent s'inscrire là sur un site, sur le site de Bien dans mes baskets, qui est biendansmesbaskets.ca.
.ca, parfait. Et j'imagine que donc on pourra à ce moment-là visualiser ce documentaire-là. C'est bien ça?
Effectivement, la soirée va être un visionnement du documentaire avec
parfait.
Par la suite un échange possible avec des jeunes, des anciens jeunes, le réalisateur, des partenaires du programme.
Du programme.
Et je vous dis, et c'est pas parce que je suis dedans, mais le film est très émouvant, il est très bien fait. En général, il touche tant les connaisseurs du milieu sportif, de l'éducation, que du basketball, que monsieur et madame tout le monde
tout
qui
le monde,
auraient le
bien
goût
sûr.
Finalement d'entendre parler d'une histoire de persévérance.
Eh bien, bravo, 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 Martin Dussault. Donc, continuez votre beau travail avec ces jeunes et nous, on continuera de parler de vous ici à Canal M.
Ben, merci beaucoup, on apprécie beaucoup.
De rien. Bonne fin de journée, Martin. Au revoir.
Merci, au revoir.
Par actualité régionale, les écoles privées du Québec à l'abri de l'austérité. Les politiques de compression du gouvernement libéral ont affecté moins durement les écoles privées que celles appartenant au réseau public des commissions scolaires du Québec. C'est ce que démontre la dernière note de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, publiée ce mardi. Tout d'abord, en faisant le portrait des transferts gouvernementaux des 15 dernières années, on s'aperçoit que les écoles privées étaient mieux préparées pour affronter les années d'austérité. De 2001-2002 à 2015-2016, les transferts gouvernementaux ont augmenté de 18% au privé contre 11% au public. Cet avantage marqué pour le privé est encore plus important lorsqu'on prend en considération leurs revenus totaux. Ces chiffres nous portent à croire que les établissements d'enseignement privé avaient les reins plus solides et avaient été davantage prêts à supporter les compressions, estime Philippe Hurteau, chercheur de l'IRIS et auteur de La Note. De 2001-2002 à 2012-2013, le taux d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, EHDAA pour l'acronyme, est passé de 12 à 22% dans le réseau public. Alors qu'il se situe à 5% dans les écoles privées. Pour la même période, la formation professionnelle dans le secteur public a également augmenté de 25% et la formation des adultes de 13%. La responsabilité éducative qui incombe aux écoles publiques est nettement plus complexe et exige conséquemment des ressources supplémentaires, explique Philippe Hurteau. C'était d'après un papier sorti par l'IRIS. Les organismes communautaires réclament un meilleur financement dans la région de la Mauricie. Les organismes communautaires qui font front commun pour réclamer ce meilleur financement. Et depuis le 23 janvier, ils mènent campagne un peu partout dans la province pour faire valoir leurs points. Les groupes du centre du Québec et de la Mauricie ne font pas exception. Ils ont expédié au ministre des Finances des cartes et objets symboliques inspirés du jeu de Monopoly. Ce mardi, des représentants étaient à Québec et à Montréal pour occuper deux édifices gouvernementaux. gouvernementaux. Ces actions marquent un deuxième temps de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » qui a fait descendre plus de 700 personnes dans les rues du centre du Québec et de la Mauricie en novembre dernier. Elles veulent rappeler au gouvernement leurs revendications quant au rehaussement de leur financement à la mission. Rappelons que tous les jours, les organismes communautaires aident des gens qui ont faim, qui sont isolés, qui sont malades, qui souffrent, qui cherchent de l'aide pour eux et leurs familles. Au centre du Québec et en Mauricie, ils aident à nourrir plus de 20 000 personnes. Ils viennent en aide à 25 000 individus en perte d'autonomie. Ils rejoignent plus de 10 000 jeunes. Ils aident 9 000 personnes handicapées et leurs familles et hébergent 2 000 personnes aux prises avec d'importants problèmes sociaux. Si les organismes communautaires n'étaient pas là, qui prendrait en charge toutes ces personnes? Le système public de santé qui craque déjà sous la pression? Les municipalités? Les villes? Les organismes communautaires travaillent pour et avec la population. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de reconnaître l'importance de l'action des 300 organismes communautaires d'ici et des 4000 groupes de tout le Québec. Nous lui demandons un financement à la hauteur du rôle crucial que nous jouons, conclut M. Landry. Chloé Serradori doit être au bout du fil. Bonjour Chloé.
Oui, bonjour.
Chloé, vous êtes de l'Association des groupes d'intervention de défense des droits en santé mentale du Québec. Malheureusement, je n'ai pas votre titre. Quel est votre titre exact?
Alors, je suis agente de liaison et d'analyse à l'association.
D'accord. Alors, Chloé, vous êtes donc très bien placée pour répondre à mes questions au sujet de ce mémoire qui a été déposé le 19 janvier dernier et de cette action militante du 7 février. De quoi s'agit-il exactement? Voulez-vous d'abord nous rappeler très brièvement la mission de votre organisme? C'est un organisme de défense de droits, hein, c'est bien
Alors,
ça?
C'est un organisme de défense de droits en santé mentale. On c'est porte ça. La voix des personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale. On est un organisme national et nos membres sont des groupes de promotion et de défense des droits dans de nombreuses régions du Québec.
Alors, ce mémoire qui a été déposé, qu'est-ce qu'il comporte?
Alors, on a analysé le projet de loi 115 qui traite de la maltraitance envers les personnes aînées puis les personnes en situation de vulnérabilité. Et on avait soulevé quelques lacunes, en particulier le fait que ce projet de loi ne tenait pas compte de la violence et de la maltraitance institutionnelle.
Et pourtant, c'est pas parce qu'on n'en parle pas.
Et oui, exactement. Hein? Puis quand on parle de maltraitance institutionnelle, ben, il y avait quatre grands dossiers qui nous préoccupaient. Le non-respect des droits. Puis, vous savez, souvent, quand on parle des droits, tout le monde dit « Oh, les droits, on les connaît », mais dans le quotidien, dès qu'on perd sa dignité, puis c'est la porte ouverte à la maltraitance. Donc, on parle de défense des droits, mais on parle aussi de l'utilisation abusive de mesures de contrôle, hein, que sont la contention, l'isolement, les substances chimiques et les électrochocs.
Ça existe encore, ça?
Alors, les électrochocs, oui, non seulement ça existe encore, mais il y a eu une augmentation exponentielle de ces traitements.
Bien, voyons donc.
Vous savez, en 2013, on avait 8686 traitements. On a passé à 10690 traitements en 2015. Et tenez-vous bien, souvent, c'est chez les femmes âgées de 65 ans et plus. Vous savez, on nous a fait croire que ça a changé là, depuis vol au-dessus d'un nid de coucou, mais du fait que on fait une anesthésie générale, etc. Mais on sait toujours pas ce que ça fait, hein, ces décharges électriques dans le cerveau. Et au niveau international, il y a un rapport du rapporteur contre la torture, M. Juan Mendez, qui demande l'abolition de ces traitements et il parle de ces traitements comme des traitements cruels, inhumains et dégradants. Malheureusement, on en est encore là en 2017.
Mais qu'est-ce qui peut bien motiver le corps médical spécialisé dans les maladies, dans les déficiences? Qu'est-ce qui peut bien les motiver? Qu'est-ce qu'ils ont comme argument à donner pour qu'il y ait tout d'un coup, parce que vous me dites, si on est passé de 2000 à plus de 10 000 en quelques années, c'est énorme, c'est du 300-400%, ça.
Oui, ben, c'est 60, je pense que c'est 60% d'augmentation depuis 2011. Il faudrait leur demander.
Oui.
Il faudrait leur demander la promotion qu'on voit et qui est faite par le ministère et par les établissements, c'est que ce serait plus sécuritaire et qu'il y aurait certains effets bénéfiques. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en 2017, on devrait prévoir autre chose que cette médecine coercitive. Puis, en plus, on se pose beaucoup de questions sur comment est donnée l'information, hein, parce qu'on a le droit à l'information dans la mesure où on ne sait pas vraiment quels vont être les effets. Et également aussi le fait que ça devait être un dernier recours. Comment justifier qu'un dernier recours soit utilisé et qu'il y ait une augmentation de 60%? Comment ça se fait que c'est donné à des femmes de 80 ans?
Ah oui.
Beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, j'invite toute la population à nous joindre au mois de mai lors de la fête des mères. Le comité pare-choc fait chaque année une manifestation pour interpeller le ministre, le gouvernement et demander l'abolition de ces traitements cruels et inhumains.
Madame Serradori, je vais compter sur vous peut-être pour nous relancer un petit coup de fil au mois d'avril pour que nous puissions reparler ensemble au moment, un petit peu avant la fête des mères et que nous reparlions de cet événement-là.
Hein? Ça va être avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Écoutez, une dernière petite chose, il nous reste une petite minute. Vous avez mené une action hier à la Caisse de dépôt. Et d'abord, est-ce que c'était hier, en tout cas récemment? Pouvez-vous nous résumer ce qui s'est passé?
Alors oui, simultanément dans tout le Québec, des actions ont été menées, particulièrement, ça a été dans plusieurs régions du Québec, mais particulièrement, il y a eu l'occupation du complexe G à Québec et l'occupation de la Caisse de dépôt et de placement à Montréal, puis c'était dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».
Oui.
Dans ces hauts lieux à la fois politiques et néolibéraux.
Oui.
Trois grandes revendications. Hein. On a demandé l'arrêt des mesures d'austérité puis un réinvestissement dans les services publics gratuits, universels, accessibles. Aussi, le rehaussement des 4000 groupes d'action communautaire autonomes hein, à la hauteur de 475 millions par an. Et aussi le respect de la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome. Aussi le fait que l'action communautaire autonome, c'est un moteur de progrès social.
Mais oui.
Alors, plus de 200 personnes à Québec, plus de 200 personnes et organismes à Montréal.
Oui, en Mauricie aussi, ça bouge partout.
En Mauricie, en Abitibi, en
Estrie, partout.
Centre du Québec, en Estrie. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était simultanément que la campagne Engagez-vous pour le communautaire interpellait et le Premier ministre et le ministre Letao pour ces revendications-là.
Puisse-t-il s'être décrassé les oreilles? Chloé Serradori, je vous remercie infiniment d'avoir témoigné pour nous aujourd'hui et bonne chance, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité nationale, on se demande comment c'est possible, mais c'est arrivé. Une enfant handicapée oubliée dans un autobus scolaire pendant 6 heures. Une chauffeure d'autobus a été congédiée à Toronto après avoir enfermé à bord, sans le savoir, pendant 6 heures, une enfant autiste et épileptique. C'était la semaine dernière. Wendy Mastache, 19 ans, refuse de retourner à l'école depuis. Normalement, la chauffeuse d'autobus reconduisait la jeune femme à l'arrière de l'école secondaire York Humber, où est offert son programme spécialisé, après avoir fait descendre les autres élèves à l'avant de l'établissement. Mais le 23 janvier dernier, elle a oublié à bord Wendy, qui a de la difficulté à parler, ainsi qu'un retard mental, raconte sa maman. La température extérieure était alors juste au-dessus du point de congélation et la jeune femme ne portait ni tuque ni gants. 6 heures sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes. Laura Mastache, la mère de l'enfant handicapé, raconte qu'elle a reçu un appel de l'école seulement en fin de journée, lui indiquant que sa fille n'avait pas été en classe ce jour-là. Alors, la chauffeuse a été suspendue. Le transporteur Stock a annoncé son congédiement mercredi. On apprend aussi que la police ne portera pas d'accusation. La chauffeuse, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot-là, était en larmes et visiblement pleine de regrets, selon les policiers. La conductrice a raconté qu'elle était déconcentrée ce matin-là, après s'être rendue à des funérailles. Et puis peut-être pour nous donner une bonne idée, à quelques mois des élections présidentielles et législatives en France, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, a adopté le 26 janvier 2017 un avis sur le droit de vote des personnes handicapées. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté, qui rend apte à exercer l'ensemble des droits politiques attachés à cette qualité, sous réserve qu'elle ne se trouve pas privée de tout ou partie de cet exercice par une condamnation pénale. Juridiquement, un Français citoyen jouit de droits civiques et politiques et s'acquitte d'obligations envers la société des personnes handicapées. Et la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ont ouvert à un nombre significatif de personnes handicapées sous tutelle le droit de voter. Toutefois, des dizaines de milliers de personnes sont encore privées de ce droit en raison de leur handicap. Pour la CNCDH, cette situation n'est ni respectueuse de la dignité des personnes ni conforme au droit international. La CNDH plaide pour une meilleure accessibilité des campagnes électorales. Elle recommande d'inscrire dans le code électoral une obligation pour tous les candidats, pour toutes les élections, de renforcer l'accessibilité de leur campagne, notamment par l'utilisation du langage facile à lire et à comprendre, d'avoir recours à des traducteurs en langue des signes accessibilité des sites Internet, réunions permettant de vrais échanges avec les personnes handicapées, etc. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Rancourt et je travaille pour Radio-Canada à Montréal, nous dit cette missive qui vous est peut-être destinée. Je réalise un court documentaire sonore sur l'expérience des sens pour l'émission La route des vins à la radio. Autour du micro, j'inviterai 3 personnes à discuter de leur rapport à un sens en particulier et j'aimerais inviter une personne aveugle à s'exprimer sur les sens, sur l'absence du sens de la vue et sur comment cette absence intensifie peut-être les autres sens présents chez l'être humain. Toute personne intéressée peut communiquer avec moi par courriel. Cette jeune femme s'appelle Marie-Laurence Rancourt. Alors, pour communiquer avec elle par courriel, marie-laurence.rancourt, R-A-N-C-O-U-R-T, @radiocanada.ca. Et puis, petit rappel, si vous êtes non-voyant et que vous voulez vous aussi visiter l'exposition Chagall, il y a Nicole Trudeau qui nous rappelle que la visite du 14 février est à 10h30 le matin, alors que la visite du 21 février est à 13h. La visite de l'exposition temporaire pour les malvoyants et non-voyants a toujours lieu le deuxième mardi de chaque mois. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités du jour. Je vous remercie de les avoir suivies en notre compagnie. Merci à mon équipe. Bonne journée, à demain.